Voici les deux textes liturgiques pour cette belle fête de la Pentecôte. L'épître est tirée des Actes des Apôtres. Le jour de la Pentecôte arrivé, les disciples étaient tous réunis en un même lieu lorsque soudain un bruit retentit du ciel, comme le bruit d'un violent coup de vent qui remplit toute la maison où ils étaient assis. Ils virent apparaître comme des langues de feu qui se partagèrent et se posèrent sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis de l'Esprit Saint. Ils se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. À Jérusalem séjournaient alors des Juifs pieux de toutes les nations qui sont sous le ciel. À ce bruit, la foule accourut, elle fut bouleversée de ce que chacun d'eux les entendait. Parler dans sa langue, stupéfaits tous, ils se manifestaient leur surprise. Est-ce que tous ces gens-là qui parlent ne sont pas galiléens? Comment donc, nous autres, entendons-nous chacun notre parler à nous, notre langue maternelle, Parthes, Mèdes, Élamites, habitants de Mésopotamie, de Judée, de Cappadoce, du Pont, d'Asie, de Phrygie, de Pamphylie, d'Égypte et des cantons de Libye qui avoisinent Cyrène, résidents de Rome, juifs et prosélytes, crétois et arabes, nous les entendons proclamer en nos langues les grandes œuvres de Dieu. On se lève pour l'Évangile. Continuation du Saint-Évangile selon Saint Jean. En ce temps-là, Jésus dit à ses disciples, « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. » Nous viendrons à lui et nous ferons en lui notre demeure. Celui qui ne m'aime point ne garde pas mes paroles. La parole que vous avez entendue n'est pas de moi, mais de mon Père qui m'a envoyé. Je vous ai dit ces choses pendant que je demeurais avec vous, mais le Consolateur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix, je ne vous la donne pas comme le monde la donne. Que votre cœur ne se trouble pas, qu'il ne s'effraie pas. Vous m'avez entendu dire, je m'en vais, je reviens à vous. Si vous m'aimiez, vous vous réjouiriez de ce que je vais à mon Père. Car le Père est plus grand que moi. Je vous le dis maintenant, enfin, avant que ces choses n'arrivent, afin que lorsqu'elles seront arrivées, vous croyez. Je ne m'entretiendrai plus longtemps avec vous, car le prince de ce monde vient et n'a aucun droit sur moi. Il faut que le monde sache que j'aime le Père et que j'agis conformément à l'ordre que le Père m'a donné. Veuillez vous asseoir. Je vous commande à vos prières la retraite que je prêche cette semaine, donc lundi, à partir de lundi, pour 6 personnes. Si tout le monde vient, un d'entre eux est assez malade, donc j'espère qu'il pourra venir prier aussi pour lui. Je recommande aussi à vos prières, surtout pour ceux qui la connaissent, Madame Garcia, nos fidèles près de Cahors, chez lesquels je donne, la famille dans laquelle je donne la messe une fois par mois, donc qui est assez malade avec une embolie pulmonaire. Elle était à l'hôpital il y a quelques jours, donc priez pour elle et sa famille. Alors, aussi, une nouvelle importante, nous avons un nouveau paroissien. Donc, Stéphane et Stéphanie ont eu leur petit garçon qui s'appelle Joseph, qui sera baptisé, si Dieu veut, ce soir, cet après-midi. Attention pour les messes, ceux qui viennent à la messe en semaine. Donc demain, messe ici à 10h le matin. Et ensuite, toute cette semaine, les messes seront au gîte, aux heures des retraites, c'est-à-dire mardi, mercredi à 7h30, jeudi, l'enfant prodigue, donc messe à 7h, vendredi et samedi, messe à 7h30, demain lundi, messe ici à 10h. Pour les retraites, j'ai encore quelques places pour la retraite du mois d'octobre. Les choses peuvent changer, elles changent aussi beaucoup avec toutes les difficultés de circulation. Entre autres, j'ai une dame qui veut venir faire la retraite depuis Australie au mois de septembre. J'espère qu'elle va pouvoir avoir un billet d'avion, c'est pas évident. Aussi, attention pour ceux qui sont en âge de jeûner. Les jeunes de 21 à 60 ans, donc c'est cette semaine qui arrive, il y a les quatre temps de Pentecôte. Mercredi des quatre temps, vendredi des quatre temps, samedi des quatre temps. Alors d'après Pie XII, en principe, il y a jeûne et abstinence. On s'est discuté entre les prêtres et pas de prêtres qui sont d'accord pour toutes ces histoires de jeûne et abstinence, parce que les règles ont tellement changé, comme il n'y a plus d'autorité aujourd'hui pour nous dire ce qu'il faut suivre, c'est assez compliqué. Alors en principe, mercredi, vendredi et samedi des quatre temps, même pour la Pentecôte, il y a jeûne pour toutes les personnes qui ont entre 21 et 60 ans, c'est-à-dire un repas par jour, et abstinence, pas de viande pour tous ceux qui ont l'âge de raison. N'oubliez pas que nous aurons dimanche prochain, donc le, non pas dimanche prochain, le 19, non c'est pas dimanche, le 19 juin, nous aurons le repas, nous aurons essayé de faire un repas ici de paroisse, une fois par mois, pour que vous puissiez justement arriver à vous connaître et créer ce lien social qui est tellement important, surtout aujourd'hui, parce qu'on est tellement isolé, on a besoin de se connaître. Et donc, le dimanche 19 juin, nous aurons un repas ici. Chacun amène un peu ce qu'il peut, ce qu'il veut, puis on se débrouillera pour nourrir tout le monde. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers frères, mes bien chers amis, on oublie un peu trop que la fête de la Pentecôte est aussi importante dans la liturgie catholique que la fête de Pâques. On a toujours l'impression que c'est en dessous, c'est au même niveau. Double de première classe avec octave de premier ordre. Donc le deuxième sommet liturgique de la foi catholique. Résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ, le dimanche de Pâques. Fondation de l'Église catholique, le dimanche de la Pentecôte. Et donc il faut vraiment rentrer dans cette histoire extraordinaire de la Pentecôte. On remarque qu'après après la résurrection de notre Seigneur, donc toute la semaine surtout qui va suivre Pâques, les apôtres sont encore bien faibles. Ils ont gardé un grand amour pour notre Seigneur Jésus-Christ, mais ils ne croient pas encore vraiment à sa résurrection. On le voit très bien dans beaucoup des apparitions de notre Seigneur Jésus-Christ, par exemple, pas simplement les apôtres, mais également les saintes femmes, Sainte Marie-Madeleine. Par exemple, notre Seigneur va apparaître à Sainte Marie-Madeleine, elle ne le reconnaît même pas. Notre Seigneur Jésus-Christ va obliger Saint Thomas, apôtre, à venir et mettre son doigt dans les plaies des pieds, des mains et du côté de notre Seigneur parce qu'il ne croyait pas encore. Notre Seigneur Jésus-Christ fait un grand miracle et multiplie les poissons dans l'action du lac de Génézareth. Il ne croit toujours pas. Et donc, notre Seigneur Jésus-Christ, qui est remonté au ciel 40 jours après Pâques, le jour de l'Ascension, les a prévenus. « Je vais vous envoyer le Saint-Esprit. » Et 10 jours plus tard, donc 50 jours après Pâques, 50 jours après la résurrection, le matin à 9h, un coup de tonnerre extraordinaire dans la ville de Jérusalem. Alors tout le monde arrive en disant « Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est que ce bruit extraordinaire qui est arrivé? C'est une bombe, un attentat islamique ou je ne sais quoi ?» Et donc tout le monde vient. Et à ce moment-là, les apôtres qui ont reçu le Saint-Esprit sous la forme d'une langue de feu. Pourquoi une langue de feu? Parce que le feu réchauffe, le feu éclaire, le feu purifie. Et donc, Saint-Pierre est complètement transformé. Il ouvre les volets, il sort dehors sur le balcon et donne son premier sermon. Et plusieurs milliers de personnes sont déjà baptisées ce jour-là. En quoi cela nous concerne? Parce que nous, on est un peu comme les apôtres, vous bien savez ce qui est. Nous aussi, on a un peu peur. Nous sommes tellement isolés. On voit tout s'écrouler autour de nous. Et nous sommes un peu comme les apôtres, nous aussi, nous avons un peu peur de témoigner notre foi. Alors aujourd'hui, le bon Dieu veut nous envoyer les dons du Saint-Esprit, nos dons du Saint-Esprit. Et par ces dons du Saint-Esprit, faire de nous des forces divines capables de tout transformer. Les apôtres n'étaient plus les mêmes après la fête de la Pentecôte. Ils vont partir dans le monde entier, aller prêcher, baptiser. Celui qui croira sera sauvé, celui qui ne croira pas sera condamné. Eh bien, c'est exactement ce qu'il faut demander. Nous aussi, il faut qu'on demande au bon Dieu la force de la prédication, la force des apôtres. Nous sommes un peu, mes bien chers frères, dans la même situation que les apôtres. Le monde est redevenu un état de barbare. On est même, je pense, au plan moral, encore plus bas que les civilisations barbares des siècles du temps de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, il nous faut vraiment utiliser ces dons du Saint-Esprit. On les connaît mal. Je suis sûr que même si je vous demandais, rassurez-vous, je ne le ferai pas, si je vous demandais de donner la liste des 7 dons du Saint-Esprit, je suis pas sûr que tout le monde serait capable de me les donner. Au temps de Saint-Pilis, c'était une des choses requises pour la première communion. Savoir la liste des dons du Saint-Esprit. Mais ces dons du Saint-Esprit, attention, une chose capitale à comprendre, les dons du Saint-Esprit sont nécessaires au salut. On ne peut pas se sauver sans les dons du Saint-Esprit. Mais les dons du Saint-Esprit sont ce qu'on appelle la couronne de la charité. Pas oublier ça. C'est-à-dire quoi la couronne de la charité? C'est-à-dire qu'il dépend directement de la vertu de charité. Si je n'ai pas la vertu de charité, je n'ai pas les dons du Saint-Esprit, c'est impossible. La vertu de charité, c'est quoi? La vertu de charité, c'est la vertu théologale pour nous faire remplir la loi du bon Dieu. Je ne peux pas prétendre aimer notre Seigneur Jésus-Christ si je ne suis pas sa loi, si je ne suis pas ses commandements. Ce n'est pas celui qui dit Seigneur, Seigneur qui entrera au royaume des cieux, mais celui qui écoute la parole du bon Dieu et qui la met en pratique. Donc, il nous faut cette vertu de charité. Il faut donc être en état de grâce. La vertu de charité et l'état de grâce, c'est la même chose. Si je suis en état de grâce, j'ai les dons du Saint-Esprit. Si je n'ai pas l'état de grâce, je n'ai pas les dons du Saint-Esprit. Or, j'ai besoin des dons du Saint-Esprit pour me sauver. Donc, je ne peux pas me sauver, je ne peux pas sauver mon âme si je n'ai pas les dons du Saint-Esprit. Alors, ces dons du Saint-Esprit travaillent par binôme. D'abord, il y a les deux plus importants, l'intelligence et la sagesse. Puis, il y a la piété et la science. Et puis, la force et le conseil. Et tout à fait à la fin, un petit don isolé qui s'appelle le don de crainte de Dieu. Mais ce don isolé, qui est le plus petit des dons du Saint-Esprit, est nécessaire pour que le plus grand puisse fonctionner. Puisque la crainte de Dieu est le début de la sagesse. Vous voyez comment ces sept dons du Saint-Esprit sont absolument nécessaires au salut. Alors, je ne vais pas avoir le temps de vous expliquer complètement les sept dons du Saint-Esprit. Il faudrait pratiquement une heure de sermon pour une heure de conférence pour chaque don du Saint-Esprit. Je voudrais surtout insister aujourd'hui, je ne préfère pas tout vous donner en même temps, insister aujourd'hui sur le don de sagesse et le don d'intelligence. Hier, j'ai donné un sermon à Andorre et j'ai essayé d'expliquer les sept dons du Saint-Esprit, mais c'était un peu trop complexe, je crois. Donc, j'ai simplement aujourd'hui gardé l'explication de l'Église, l'enseignement de l'Église sur les dons de sagesse. Qu'est-ce que c'est que don de sagesse? Les dons de sagesse, c'est le roi des dons du Saint-Esprit. C'est le plus important. Et les dons de sagesse est le don qui nous fait comprendre où sont les choses importantes. Et s'il y a un don dont on a besoin, c'est bien celui-là aujourd'hui. Parce qu'on a là, nos têtes sont comme des... On n'a plus de cerveau dans nos têtes, on a une espèce de bouillie pour chat. Parce qu'on a tellement de tentations, tellement de distractions, tellement de chocs, si vous voulez, extérieurs, on est bombardé à longueur de journée, qu'on a un mal fou à faire un choix. Le don de sagesse est donc un don spécial pour nous aider à remettre de l'ordre dans notre intelligence. Remettre de l'ordre dans notre intelligence pour avoir une hiérarchie des valeurs. Remettre de l'ordre. On ne peut pas tout connaître. On ne peut pas tout posséder. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que fait le démon? Le démon, il cherche, si vous voulez, à remplir notre âme, notre cervelle, notre intelligence, avec des tas de choses sans aucune importance pour qu'on n'ait plus le temps de s'occuper des choses vraiment importantes. Donc, avec le don de sagesse, qu'est-ce qu'il va falloir faire? On va littéralement devoir vider notre intelligence et faire le tri. Les choses importantes, on garde. Les choses secondaires, on met à côté. Parce qu'on n'a pas de place pour tout. Et même une fois qu'on a fait un premier tri, qu'on a choisi quelles sont les choses importantes dans notre vie, le don de sagesse va nous aider à mettre une hiérarchie dans ces choses importantes. Il y a des choses importantes, mais des choses qui sont plus importantes que d'autres. Donc le don de sagesse va intervenir pour nous aider en quelque sorte à utiliser correctement notre intelligence. C'est pour ça que le don de sagesse est uni au don d'intelligence. Le don de sagesse va nous aider et le don d'intelligence vont nous aider à utiliser correctement notre intelligence pour mettre de l'ordre dans ce qu'on doit garder dans notre intelligence. Et certains pères disaient que le don de sagesse est le garde-fou de notre intelligence. J'aime bien l'expression. Le garde-fou de notre intelligence. Il y a quelque chose qui nous aide à contrôler notre intelligence. Encore une chose capitale à comprendre. Le bon Dieu ne nous a pas donné une intelligence pour que nous en fassions ce que nous voulons. Le bon Dieu nous a donné une intelligence pour que nous utilisions cette intelligence afin d'atteindre l'objet formel de notre intelligence qui est le vrai. Je n'ai pas le droit d'utiliser mon intelligence pour le mal. Et donc le don de sagesse, oui, va nous aider à mettre un peu d'ordre là-dedans. Pour arriver justement à garder les choses intelligente et pousser de côté les choses secondaires. Donc le premier rôle de la sagesse, il est là. Nous aider à comprendre où sont les choses importantes. Et quelle est la chose la plus importante pour nous? Pour ceux qui ont fait les exercices Saint-Ignace, c'est la première phrase des exercices. L'homme a été créé pour louer, honorer, servir Dieu, sauver son âme. Voilà le plus important. Je suis sur la terre pour adorer le bon Dieu, pour le respecter, pour lui obéir par la loi de Dieu, en suivant sa loi des 10 commandements, et pour sauver mon âme. Et mon âme, comme j'en ai qu'une, et bien c'est ce qui est le plus important. Donc le plus important dans ma vie de tous les jours, c'est de sauver mon âme. Ce n'est pas d'aller nourrir tous les pauvres de la planète. Ce n'est pas de connaître toutes les choses qui peuvent être connues dans le monde. Non, c'est de sauver mon âme. Voilà le plus important. Et si je sauve mon âme, je ne me sauverai pas tout seul. Il y aura du monde avec moi. Par contre, si je ne m'occupe pas du salut de mon âme et que je perds mon âme, en général, je ne me perds pas tout seul. Vous voyez l'importance absolument fondamentale de cette chose-là. Le deuxième but du don de sagesse et du don d'intelligence, qui travaillent tous les deux ensemble, c'est nous donner l'amour de l'Église. Et Dieu sait si on a besoin de cet amour de l'Église aujourd'hui. Il n'y a qu'une seule Église en dehors de laquelle nul ne peut être sauvé. L'Église une, sainte, catholique et apostolique. Et il nous faut être membre de cette Église pour pouvoir être sauvé. Personne ne peut être sauvé en dehors de l'Église. Pour moi, qu'il dit, c'est le catéchisme de notre Seigneur Jésus-Christ. Il le dit lui-même. Et donc, il nous faut, eh bien, chers frères, avoir ce grand amour de l'Église. Vous avez sans doute remarqué que depuis, non pas des années, mais des siècles maintenant, le démon n'a de cesse de nous pousser à avoir honte de nos racines. Le démon n'a de cesse de nous pousser à avoir honte de l'Église catholique. Et ça ne vient pas du Vatican II, ça. Ça vient de largement avant. Et tout le travail, par exemple, des philosophes des Lumières. Le travail de Voltaire, c'est quoi ? Voltaire, avec la complicité des ministres de Louis XVI, a déjà commencé à diffuser partout en France des petits pamphlets très courts, très bien écrits sur le plan du français, pour contaminer les intelligences de tous les Français. Et leur mettre tous ces mensonges dans la tête. Rappelez-vous le mot d'ordre de Voltaire, mentez, 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 il en restera toujours quelque chose. Il a fait un très bon travail de ce côté-là. Il a commencé à mettre le doute dans les esprits. Et ce doute n'a fait, après, qu'être multiplié à l'infini au cours des siècles qui vont suivre. Et ce qui fait que maintenant, c'est ahurissant, on en arrive presque, on voit chez certains catholiques, presque la honte d'être catholique. Quand les gens nous demandent, vous êtes catholique ? Oui, je suis catholique. Oh, vous êtes catholique, mais le catholique c'est épouvantable. C'est les bûchers de l'Inquisition. Vous ne rendez pas compte, ces prêtres, ces évêques qui allaient chercher ces pauvres gens qui n'avaient jamais rien fait de mal dans leur vie pour les brûler tout vivants sous des feux épouvantables. Et vous ne rendez pas compte, l'Église catholique, mais c'est les croisades, c'est épouvantable, ces bons petits musulmans qui aimaient tout le monde. Et puis voilà les armées européennes qui vont aller chasser ces pauvres musulmans de la ville de Jérusalem. Mais l'Église catholique, mais vous ne vous rendez pas compte, mais regardez un peu ce qui s'est passé par exemple au Mexique avec l'arrivée de Cortés. Il avait des capucins, des franciscains dans ses cales. Ils ont éliminé cette magnifique, jolie petite religion des Aztèques qui adorait le dieu soleil. Et tout comme ça. Et on est tellement bêtes qu'on croit toutes ces bêtises. Personne ne veut vérifier. Alors, je peux vous donner d'autres exemples. Alors, ça sera l'Église catholique. Oh, c'est les papes Borgia avec toutes les insanités et les impuretés des papes Borgia. Qui va vérifier ? Qui a le courage d'aller prendre un vrai livre d'histoire ? Pas les livres d'histoire écrits par les ennemis de l'Église, mais les vrais livres d'histoire. Et à ce moment-là, on découvre que la vérité n'a rien à voir avec tout ça. Et qu'au contraire, non seulement on n'a pas à avoir honte de notre foi, mais on doit avoir la fierté de notre foi catholique, la fierté de notre Église. Je suis fier d'être catholique, je suis fier d'être prêtre catholique. Et vous aussi, vous devez être fier de cette foi. Voilà pourquoi le don de sagesse est tellement important. Remarquez, c'est un détail, mais c'est un détail qui a son importance, surtout aujourd'hui, qu'ils font la même chose avec tout, pas simplement avec l'Église. Ils cherchent aujourd'hui, on le voit très bien, par tous ces ennemis de l'Église qui contrôlent complètement les centres de nouvelles, les centres d'information. Comment ils font? Ils travaillent, ils font des heures supplémentaires à longueur de journée pour continuer de mentir sur tout. Et ils mentent tellement qu'on finit par avaler tous ces mensonges. On nous fait croire, par exemple, je vous donne simplement un exemple tout bête et tout simple dont je vous ai déjà parlé, mais je pense que c'est important de comprendre cet exemple. Regardez ce qui se passe actuellement en Ukraine. On nous fait croire que les Ukrainiens vivaient tranquillement dans leur terre et puis que le méchant ogre russe est arrivé à commencer à bombarder ces pauvres gens complètement innocents. On a oublié de vous prévenir que depuis 2014, le gouvernement ukrainien bombardait ses propres populations dans le Donbass de Donetsk parce qu'ils avaient le malheur d'être d'origine russe. Et c'est tout simplement un acte de légitime défense. Et c'est tout comme ça. C'est tout comme ça. On vous raconte des bêtises à longueur de journée. On peut reprendre tous les grands thèmes de l'histoire actuelle. C'est comme ça. Ils sont extrêmement doués. Je vous donne un exemple tout simple. Un exemple que je connais bien parce que j'ai vécu en Espagne pendant longtemps. Prenez le cas de Franco, par exemple. Général Franco. Quoi, je ne peux pas tout dire parce que si je parle un peu trop, je vais me faire fermer ma chaîne YouTube. Mais un exemple tout simple. Regardez comment ils ont détruit complètement la réputation du général Franco. Général Franco a sauvé l'Espagne du communisme, c'est pas rien ça. Général Franco était un grand catholique. Paul VI lui a la poignardé dans le dos en nommant tous les évêques les plus anti-catholiques et les plus communistes qu'il ait pu trouver pour les nommer en Espagne et détruire le travail de Franco. Franco a fait un travail extraordinaire. Comment ils ont détruit toute l'œuvre de Franco dans l'esprit non seulement des petits Espagnols, mais aussi en France. Ils ont associé au mot Franco le mot dictateur. Le dictateur Franco, le dictateur Franco, le dictateur Franco. Et tout comme ça. Et à force de répéter ces choses, les gens pensent que Franco est un dictateur et personne ne veut vérifier. Vous voyez, pour cela qu'il faut avoir, mes bien chers frères, je pense que c'est capital aujourd'hui de comprendre ces choses-là, d'avoir cet amour pour notre Église. N'écoutez pas toutes ces bêtises. Et prenez le courage, parce qu'il en faut, d'aller étudier un petit peu ce qui se passe. Prenez une bonne histoire de l'Église et puis allez commencer à étudier l'histoire de l'Inquisition, l'histoire des croisades, etc. Et vous verrez, ça n'a rien à voir avec ce qu'on nous enseigne. N'ayez pas honte des catholiques. N'ayez pas honte d'être dans l'Église catholique de toujours. Soyez fiers de ça. Alors, le don de sagesse a aussi d'autres effets. Et don de sagesse va nous donner aussi l'éducation de l'admiration, un point fondamental. Nous pousser à admirer les choses belles. Le démon de la révolution, mes bien chers frères, écoutez bien ce que je vous dis là, c'est capital. Le démon de la révolution va nous pousser à aimer les choses laides. Il va tellement travailler sur nos intelligences, nous faire croire que les choses laides sont devenues des choses belles. Et ça, regardez ce qui s'est passé autour des années 50, ça a commencé aux années 50, hein. Juste après la guerre. On a pris des tableaux comme ni queue ni tête, je pense par exemple au Picasso, ou des gens comme lui. Des tableaux qui n'ont ni queue ni tête, on a commencé à faire quoi? C'est très beau, c'est joli. Oh. Les gens regardaient ça, qu'est-ce que c'est que cette bêtise? Mais on a tellement répété, c'est beau, c'est joli, et puis les grands politiciens, ils ont tout ça dans leur salon, et puis les grands sportifs, les grands de ce monde ont tout ça dans leur salon. On a fait croire aux gens que ça devenait joli. Et maintenant, vous avez des tableaux avec une toile blanche, avec quelques traits de peinture jetés sur la toile n'importe comment, et on vend ça à des millions, on prétend que c'est beau. Et les gens sont tellement bêtes qu'ils croient à ces choses-là. Donc le don de sagesse a aussi pour but de nous aider à aimer le beau. Notre Seigneur Jésus-Christ est le prince de la beauté. Vous n'avez jamais posé la question de savoir pourquoi les jeunes aiment tant les choses laides? Et plus c'est laid, plus ils aiment ça? Vous prenez la rue 5 minutes, vous allez voir. Donc, je vois par exemple ces jeunes filles qui se promènent avec des pantalons troués, avec des cheveux de toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. J'ai envie de les arrêter, de leur dire, excusez-moi, mademoiselle, je peux vous poser une question? Mais quel intérêt trouvez-vous à vous enlaidir de la sorte? Bon, je ne le fais pas parce que je me ferai étrangler rapidement.
Mais c'est exactement le problème. Pourquoi les jeunes aiment tant les choses LED? Regardez la musique. Regardez la musique. Les jeunes maintenant sont dans le rap à longueur de journée. Il n'y a même plus de ligne mélodique, il n'y a que du rythme. Ça parle qu'au corps, ça parle même plus à l'intelligence. Les gens trouvent ça beau. Pourquoi? Parce qu'ils ont perdu le filtre qui leur permet de comprendre où sont les belles choses. Et ce filtre, c'est le don de sagesse. Comment ils ont perdu le don de sagesse? Parce qu'ils ont perdu l'état de grâce. Ces jeunes qui se promènent dans la rue et qui n'aiment que les choses laides, ils sont plus en état de grâce depuis des années, malheureusement, pour la plupart d'entre eux. Ayant perdu l'état de grâce, ils ont perdu la couronne de la charité. Ayant perdu la couronne de la charité, ils ont perdu, évidemment, le don de sagesse et du bon sens élémentaire. D'où l'importance, mes bien chers frères, dans nos familles catholiques, entourez vos enfants de choses belles. Il faut que tout soit beau. Vous avez déjà vu quelque chose construit au Moyen-Âge qui est laid, vous? Vous avez imaginé un architecte du Moyen-Âge en train de construire une église laide? Qu'est-ce qui serait passé? On lui a dit, monsieur, on passe le bulldozer, il n'y a pas de bulldozer à l'époque, mais vous nous enlevez ça. Hein. Et puis, au cas où il refuse et qu'il continue de construire des choses vraiment laides, on met en prison. Et puis, s'il ne voulait pas changer, le pouvoir civil allait le brûler, on en brûlait un tous les 20 ans, et puis ça calmait un peu tout le monde. Et ils ont sauvé la civilisation chrétienne. Vous voyez, pourquoi les gens aiment les choses laides? Parce qu'ils ont perdu le bon Dieu, ils ont perdu notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, dans vos familles, protégez la beauté, entourez vos enfants de belles choses. Moi, je remercie tous les jours mes parents, ma bonne maman qui est justement devant moi, je peux la remercier publiquement, mes parents m'ont donné l'amour de la belle musique, par exemple. Quand j'étais petit, on n'entendait que la musique baroque à la maison. Et je remercie le bon Dieu d'avoir formé mon intelligence, le bon Dieu d'avoir permis que j'aie des parents catholiques. Vous voyez, comme toutes ces choses sont absolument fondamentales. Encore, je m'excuse, je vais être un petit peu long aujourd'hui. Encore un point important. Le don de sagesse nous donne l'éducation de la curiosité, le désir de tout connaître, le désir de tout savoir. Vous n'avez pas besoin de savoir aujourd'hui ce qui se passe aux îles Galapagos. Par contre, vous avez besoin de savoir ce qui concerne votre salut. Donc les gens veulent tout savoir, ils veulent savoir ce qui se passe à l'autre bout du monde, et sont incapables de me citer les sept dons du Saint-Esprit, parce que pour eux, le catéchisme, ce n'est pas très important. Par contre, de savoir ce qui se passe à l'autre bout du monde, de savoir qu'est-ce qui a gagné le dernier match de tennis ou je ne sais pas trop quoi, ça c'est très important. Donc les dons de sagesse vont nous donner l'éducation de la curiosité. Lorsque le pape Saint Pie X a condamné le modernisme en 1907, dans les causes du modernisme, n'oubliez pas, l'orgueil, l'ignorance et l'amour de la curiosité, l'amour des nouveautés. Et donc là, encore une fois, intervient les dons du Saint-Esprit. Et le dernier effet du don de sagesse, c'est de nous donner ce qu'on appelle la sainte inquiétude. La sainte inquiétude, quelque chose de tellement important. S'inquiéter des choses importantes. On est toujours inquiet aujourd'hui, à longueur de journée, on s'inquiète pour tout. Le problème, c'est qu'on ne s'inquiète pas pour les choses pour lesquelles on devrait s'inquiéter. On s'inquiète beaucoup pour les choses qui sont secondaires. Enseignez à vos enfants à s'inquiéter des choses importantes. Posez-vous toujours la même question. Est-ce que je suis en état de grâce? Est-ce que ceux dont j'ai la charge sont en état de grâce? C'est ça, les choses importantes. Le reste, c'est du secondaire. Je ne vous demande pas de ne pas vous préoccuper aussi du reste. Il est évident qu'un père de famille qui me dit « Ah, moi, monsieur l'abbé, j'ai compris, donc je m'occupe plus du bon Dieu, je prie des chapelets en longueur de journée, je m'occupe plus de nourrir ma famille. » Non, mais attention, ça ne va plus du tout, ça. Parce que votre devoir d'État consiste aussi à vous occuper de nourrir vos enfants et votre épouse. C'est du bon sens élémentaire. Vous voyez, il faut vraiment demander ces grâces, ces grâces de lumière. Le Saint-Esprit donne la lumière de l'intelligence. C'est le maréchal Pétain qui avait dit: la France est malade dans son âme. Il avait dit ça dans un sermon, dans un discours important. La France est malade dans son âme. Il disait ça autour des années 40. Qu'est-ce qu'il dirait aujourd'hui? Et on peut vraiment dire la même chose. Notre pauvre pays est malade dans son âme. Beaucoup des catholiques modernes sont malades dans leur âme parce qu'ils sont incapables d'utiliser leur intelligence pour atteindre le vrai. Parce qu'ils n'ont plus la lumière que le bon Dieu donne aux intelligences, à savoir les dons de sagesse, parce qu'ils sont plus en état de grâce depuis des années et des années. Restez en état de grâce. Confessez-vous régulièrement. Même si vous ne comprenez pas très bien pourquoi, quelqu'un qui comprend très bien, c'est le démon. Et passez par la Sainte Vierge. N'oubliez pas que le bon Dieu a voulu donner les dons du Saint-Esprit par la très Sainte Vierge Marie. Elle est au centre de la scène. La très Sainte Vierge Marie est là. Et lorsque tous les dons du Saint-Esprit ont été donnés aux apôtres, ils sont passés par la très Sainte Vierge Marie parce qu'elle est médiatrice de toutes les grâces, y compris des grâces, des dons du Saint-Esprit. Donc tout est passé par elle. Ayez cette dévotion envers la très Sainte Vierge Marie. Vous voyez la très Sainte Vierge Marie, un jeune de Marie se promener avec un jean troué dans la rue? Impossible. Pourquoi? Parce qu'elle est mère de Dieu. Elle est mère de la beauté incarnée. Elle est mère de la vérité incarnée. Elle est mère de la noblesse incarnée, qui est notre Seigneur Jésus-Christ. Alors demandons, mes bien chers frères, toutes ces grâces tellement importantes. Demandons-les, encore une fois, par l'intermédiaire de la très Sainte Vierge Marie. Et après notre communion d'aujourd'hui, avec la communion, vous allez recevoir encore les dons du Saint-Esprit. À chaque fois que nous communions en état de grâce, le bon Dieu augmente en nous la vertu de charité. Donc augmente en nous la présence des dons du Saint-Esprit. Demandez ces dons de sagesse dont nous avons tellement besoin pour justement augmenter en nous l'amour du vrai, l'amour de la beauté, l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ et de son Église. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.